CV.
Lundi, 10h16, c'est l'heure d'aller rejoindre notre collaborateur hebdomadaire dans l'heure CV, puis il est loin en ce moment. Il est dans un endroit qu'on peut se demander pourquoi, mais pour lui, c'est quelque chose de très intéressant en ce moment qui se passe au Salvador. Et le voici, le voilà, par Zoom, c'est même pas par téléphone, parce qu'on voulait s'assurer que la ligne coupe pas. Salut Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, auteur et maintenant grand voyageur au Salvador.
Allô, Pascal.
T'as l'air d'être au chaud. Comment ça se passe là-bas? T'es parti quand là, pour le Salvador?
Je suis parti vendredi. Je te confirme que je suis au chaud. Et j'adore être au chaud. Pour moi, moins de 20 degrés, c'est du gros froid.
Ah, OK, bien là, on est même pas au gros froid aujourd'hui. C'est quand même le fun, là, à Québec. Là.
Non, pas moins que moins 20, moins que 20.
Ah, degrés? Oh,
oui, non. Oui.
Bon, là, t'es strict.
Le Québec est intéressant en juillet, en août, côté température.
Maintenant, fin septembre.
Septembre, quand on est chanceux, mais oui, voilà. Mais,
là, t'es au Salvador, c'est pas nécessairement pour des vacances, on en reparlera, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là-bas, mais t'es plutôt pour tourner quelques images ou encore aller chercher de l'information sur les droits humains de là-bas, mais on parle pas souvent de Salvador, ça brasse énormément. C'est un endroit où qu'on devrait justement avoir quelques caméras une fois de temps en temps, côté médiatique et actualité internationale. Mais d'abord et avant tout, je voulais prendre toutes tes connaissances en droit, en tant qu'avocat associé aussi, parce que la semaine dernière, il y a une nouvelle qui est tombée en deux cracks. Et c'est une mise en demeure qui a été envoyée à Christian Dubé, le ministre de la Santé. En fait, il y a un bras de fer en ce moment entre les médecins de famille et Christian Dubé qui est peu discuté là, dans les médias au quotidien. Et c'est un bras de fer qui a durci. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a mis en demeure, c'est pas rien quand même, un ministre, là, le ministre de la Santé. Et on veut les forcer en faire plus. Eux ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Le syndicat des médecins déplore qu'on a mis ces gens-là devant le fait accompli. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi envoyer une mise en demeure à un ministre? Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Est-ce que ça peut faire changer les choses ou c'est une perte de temps?
Bien, habituellement, quand tu envoies une mise en demeure à un ministre, là, c'est que les. Comment on dirait ça? Le dialogue est rompu, disons ça comme ça.
On a essayé de parler puis ça n'a rien donné.
Très clairement, ou on a été pris par surprise. C'est ce que dit le syndicat ici, essentiellement, parce que c'est un syndicat dont on parle. Est-ce que ça veut dire que la mise en demeure est une réelle perte de temps? Pas nécessairement, parce que, bon, une lettre de mise en demeure, en droit, c'est pas grand-chose. Ça reste une lettre de menace, entre guillemets, mais ça peut faire parfois bouger les choses. Hein? Essayer d'asseoir une espèce de rapport de force. On peut aussi penser que d'un point de vue relations publiques, ça peut être d'intérêt parce que les médias pourraient en parler. La preuve, on en parle ce matin. Autrement, probablement que ce serait passé comme une lettre à la poste. Personne n'aurait discuté de l'enjeu. L'autre affaire aussi qui est possible, c'est qu'il y a un fondement légal à tout ça. J'ai lu rapidement là, ce que tu m'as envoyé. Je ne donne pas d'opinion juridique formelle, mais à première vue, je ne crois pas qu'il y ait de motifs légaux sérieux qui permettraient une action en justice. Donc, très clairement, on est fort probablement dans le rayon de la menace et du rapport de force et des relations publiques, beaucoup plus que dans le rayon du droit.
Mais ça, le ministre de la Santé doit le savoir. Est-ce que ça a vraiment un poids sur lui? Si recevoir cette lettre-là, c'est un peu comme recevoir une lettre de son correspondant, là.
Oui, un peu, oui. C'est une lettre de correspondant fâché là, qui est déçu qu'on ne l'ait pas consulté sur tel ou tel cas. Non, honnêtement, oui, évidemment, là, qu'est-ce que fait un ministre quand il reçoit une lettre de mise en demeure? Premièrement, c'est pas lui qui la lit, là, il n'est pas trop stressé avec ça. Il envoie ça au ministère de la Justice et attend un avis juridique. Et dans ce cas-ci, je serais prêt à parier que l'avis juridique du ministère de la Justice à Christian Dubé, c'est stresse pas avec ça, va prendre un café, tout est beau.
On s'en occupe.
Sous toute réserve, évidemment, je ne connais pas le dossier à 100%, mais on voit ça aussi en matière d'immigration, en matière d'agriculture, en matière de transport. Des mises en demeure qui s'envoient à des ministres, c'est très fréquent de la part de citoyens, de regroupements surtout.
Ah ouais?
Ou de ministres.
Ah ouais, oui? Tu as vu ça souvent dans ta carrière, toi?
Moi, je l'ai fait souvent, en fait.
En tant qu'avocat, envoyer une mise en demeure à un ministre?
Oui, mais quand je le fais, puis là, chacun ses stratégies, mais moi, quand je le fais, c'est que je considère que j'ai des motifs légaux derrière la procédure. Moi, j'aime pas menacer dans la vie, j'aime mieux dire ce que je vais faire. En d'autres termes, voici où on s'en va, j'envoie une mise en demeure parce que c'est le processus, parce que je vous donne la chance de régler l'enjeu avant qu'on aille à la prochaine étape. Mais bluffer pour bluffer, il y a des clients parfois là, qui aiment ça quand on essaie de faire peur avec des mises en demeure, puis là, j'essaie de leur faire comprendre. Un ministre qui a peur d'une mise en demeure, là, ben, faut il faut qu'il sorte de la cuisine parce qu'il fait trop chaud. Ce n'est pas un vrai ministre. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment de. En tout cas, moi, je ne connais pas de ministre qui stresse avec une mise en demeure, sauf si, évidemment, il y a des motifs légaux sérieux qui sont amenés à même la procédure.
Puis dans ce cas-ci, envoyer une mise en demeure à un ministre comme Christian Dubé en santé, je vous rappelle, c'est parce que la Fédération des médecins homéopathiques du Québec bon, met en demeure le ministre de la Santé. On veut forcer ces médecins-là à en faire plus. On n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est vraiment contre la personne ministérielle, soit Christian Dubé, ou c'est plutôt au ministère qu'on envoie cette mise en demeure-là, mais puisqu'il est le représentant du ministère, cette mise en demeure lui est adressée. Est-ce que ce serait lui, par exemple, qui irait en cour? C'est plutôt le ministère. Comprends-tu ma question?
Oui, absolument, qui est très, très, très pertinente, en fait. On apprend ça en droit administratif au bac en droit, ce qui est un cours de deux, troisième année. Donc, ce n'est pas un cours de première, c'est un cours de deux, troisième. Si demain matin, François Legault disait, bon, à la santé, là, Dubé, tu t'en vas, je t'envoie, peu importe, à l'éducation, puis je mets Drainville à la santé, bien, comme par magie, comme ça, systématiquement, ce sera Drainville qui sera maintenant visé par la mise en demeure. Donc, c'est pas tant ben c'est son ministère,
C'est
oui,
ça.
mais comment je dirais, le rôle du ministre au sens très impersonnel comme tel, ce qui fait en sorte que même cette mise en demeure-là s'appliquerait encore le jour où le gouvernement Legault se fait dégommer, puis qu'il y a un gouvernement du PQ, un gouvernement du Parti libéral ou autre, ça ne change pas non plus. Donc, c'est une espèce de, comment je dirais, de créature un peu impersonnel essentiellement, mais qui peut être poursuivi devant les tribunaux.
Puis dis-moi, dans le sujet, pour le terminer, admettons qu'on décide d'aller plus loin dans cette mise en demeure-là ou dans une mise en demeure X, quelles sont les conséquences pour le ministre en soi? Ce serait-tu de lui demander de démissionner? Ce serait-tu une somme d'argent? Ce serait-tu de reculer sur sa position comme dans ce cas-ci, lorsqu'on demande de diminuer les tâches qu'on souhaite ajouter à ces médecins de famille-là dans leurs tâches au quotidien? C'est quoi les conséquences?
Bien, tu vois, dans ta question, il y a deux volets. Je vais répondre aux deux. Le premier volet, c'est que tu ne peux pas poursuivre un ministre personnellement parce qu'il a ce qu'on appelle une immunité dans le cadre de ses fonctions. Encore faut-il qu'il ait agi dans ce même cadre-là. Donc, un ministre qui décide, moi, je n'écoute pas tel syndicat, moi, je fais telle affaire, moi, je subventionne X plutôt qu'Y, vous n'avez aucune chance de réussite ou à peu près si vous décidez de poursuivre un ministre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il aura agi dans le cadre de ses fonctions. Si par contre, Christian Dubé sort dans la rue avec un fusil puis il se met à tirer, bien là, c'est une autre histoire.
Oui.
Parce qu'on n'est plus vraiment en tout cas, j'espère qu'on s'entend sur le fait qu'on n'est plus dans le cadre
De
des
son
fonctions de
travail, oui.
Voilà, ben c'est parce que je dis ça, mais c'est parce que c'est Trump qui. Les avocats Trump sont allés plaider ça, hein, devant les tribunaux américains. Un président a le droit de tirer sur qui il veut, puis il a une immunité complète. Les tribunaux ont dit, ben non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et puis, tu as donné une petite anecdote. Au Québec, il y a une grosse, grosse, grosse histoire dans les années 50 qui est très, très, très connue. C'est l'affaire de Ron Carelli contre Duplessis. Duplessis, qui était à la fois ministre de la Justice et Premier ministre, qui est quand même assez pratique, avait décidé de faire retirer le permis d'alcool à Ron Carelli, qui était un témoin de Jéhovah, qui subventionnait, qui essayait de donner un coup de main en payant les cautions des Jéhovah qui se faisaient injustement arrêter par la police de Duplessis ou les polices municipales. Et à un moment donné, Duplessis s'est tanné, puis il a retiré son permis d'alcool à Ron Carelli en disant, lui, il est toujours contre moi, puis ça m'énerve.
Son permis
Et la
d'alcool
cause.
parce qu'il était tenancier de bar aussi
Oui,
ou...
exact.
OK.
Je vais commencer avec ça. Excuse-moi. Oui, il y avait un restaurant qui fonctionnait très bien, mais Ron Carelli s'amusait à baver Duplessis en payant les cautions de Tous les Jéhovah. Et Duplessis avait la mèche assez courte pour ce genre
Tu
d'affaires-là. Donc,
n'auras
il a
plus
fait.
d'argent, tu n'en vendras plus de drink pour
Voilà,
payer
il a
ça.
fait retirer son permis d'alcool, mais absolument sans motif, là. C'était purement arbitraire. Et la Cour suprême du Canada, il a dit, ben, c'est pas comme ça que ça marche dans un État de droit. Tu n'étais plus dans le cadre de tes fonctions de ministre ou de premier ministre dans ce cas-ci. Je te condamne à verser, je pense que c'était quelque chose comme 55 000 piastres, mais en
Au
dehors des années.
personnel ou avec l'argent du gouvernement?
personnel,
OK.
connaissant Duplessis, je serais pas mal certain que les contribuables vont...
On va
ont...
aider.
ouais. J'ai pas la
Spécule.
preuve, mais je soupçonne.
Oui, soupçonne, fais attention, toi, l'avocat. Tu es actuellement, Frédéric, au Salvador. Ça brasse pas mal. Tu dis que tu étais dans un trou en ce moment. C'est pourquoi tu n'avais pas vraiment de données cellulaires et on se parle par Zoom. Mais tu es là pour des reportages sur les droits humains. Pourquoi?
Ben, écoute, c'est un fantastique pays, le Salvador. Je commencerai avec ça. C'est pour te rendre jalouse, là, 300 km de plage, okay, pour te donner une idée. C'est ce qu'on appelle le pays du surf. C'est magnifique. Sauf que depuis plusieurs années, le Salvador était considéré comme étant un des pays les plus dangereux au monde. En fait, avec le plus haut taux d'homicide, ni plus ni moins, d'une année à l'autre.
Envers des kidams ou envers plutôt des gangs de rue, contrôle de drogue?
Des gangs de rue ici là, terrorisaient, puis je parle au passé, en moitié au passé, la population. C'est une population de 7 millions et quelques à peu près actuellement. Or, tu avais 75 000 personnes qui terrorisaient les touristes, qui faisaient qu'il n'y en avait plus pas de tourisme essentiellement, et menaçaient aussi la population. Moi, tu vois, ici, là, je suis dans une espèce de raccoin, je suis à San Diego, qui est considéré comme un des spots les plus dangereux au San Salvador, et on m'a expliqué ça après, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien qui tourne. En d'autres termes, c'est un sens unique. Puis une fois que tu arrives au fond, moi je suis au fond, ben tu es coincé. Et les gangs de rue attendaient les gens en fin de soirée, par exemple. Il y avait des trucs aussi atroces. Je vais le raconter parce que je pense que ça vaut la peine pour donner une image. Mais disons, des gens arrivaient ici en famille. Les gangs de rue allaient voir le père puis disaient, bon, ben ta fille nous accompagne. Puis si ta fille ne nous accompagne pas, ben on tue tout le monde.
OK. Puis
Alors,
on
c'est un
passait à
nouveau.
l'action, là. Ce n'était pas qu'une
Oui,
menace ou une mise en demeure, là.
non, non. Il n'y avait pas de mise en demeure
Non,
avec Christian
c'est
Dupré.
ça.
Apparemment, ça se faisait assez vite.
Ouf.
Ce qui fait que, il y a ça quelques années, il y a un gars qui s'appelle Bukele qui a été élu. Et lui, il a dit, bon, moi, les droits humains, c'est bien beau, là, mais je m'en fous. Et il a fait arrêter à peu près tout le monde de manière arbitraire pour lutter contre le crime organisé. Ça a fonctionné, évidemment. Le crime a chuté de manière stratosphérique. Écoute, il y a de ça pas très longtemps, puis même en fait cette semaine, il y a des restos qui ferment à 7 heures. Je dis, mais un resto qui ferme à 7 heures, c'est pas vraiment un resto, là, tu sais, samedi soir. Je dis, ouais, mais on veut pas sortir trop tard. Or, ça commence, cette culture-là de peur, si tu veux, commence à s'estomper justement parce que les politiques de Bukele ont fonctionné. Mais moi, je m'interroge, puis je suis d'accord avec la répression contre le crime organisé. Évidemment, là, ça va de soi. Sauf qu'il y aurait peut-être une manière de le faire quand même, c'est-à-dire en accusant ces gens-là et en leur faisant un procès. Or, on n'en fait pas, on les laisse pourrir en prison sans accusation. Évidemment, sur 75 000, tu auras compris
Il y a
qu'il y
peut-être
en a un
des
sacré.
erreurs, mais oui.
Oui, puis il y en a un paquet là-dedans qui sont. Puis ça, c'est connu, là, qui sont innocents. Là, je commence à faire sortir des reportages, pas des reportages, pardon, des témoignages. Je parle avec un, avec l'autre. Et quand tu es en dedans, par exemple, le fils d'une famille à qui j'ai parlé ici, qui est injustement emprisonné apparemment, ben on lui dit, bon, ben écoute, si tu veux manger cette semaine, écris à ta famille, c'est 160 $, sinon rien du tout. Donc, tu sais, évidemment, il y a de la corruption, il y a
Corruption.
de la magouille. Bukele est allé aussi plus loin. Il se fait, écoute ça, il s'est autoproclamé, Pascal, le dictateur le plus cool au monde.
Ah ouais, OK.
Et
Ça me fait penser à Vladimir Poutine qui disait que c'était l'homme le plus bel homme au monde, là. On est encore dans ces tops-là.
tu me diras que ça se discute, mais au moins la beauté, si elle est subjective, elle a quand même un petit côté poétique.
Oui.
Mais dictateur, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, c'est pas très poétique. Or, lui, il a trouvé une manière de spinner ça. Comme par exemple, il a dit, bon, il y a 5 juges de la Cour suprême sur 15 qui me tapent ses nerfs. Il les a congédiés, puis il les a remplacés par ses chums. Et là, tout à coup, la Cour suprême lui a permis de se représenter pour un deuxième mandat, ce qu'il n'aurait pas eu le droit de faire autrement.
Ah,
Donc,
j'entends.
de petites magouilles. Là, pour tout de suite, ça va bien. Il est ultra populaire. Les gens ont voté pour lui à 85 % le 5 février, donc ça fait à peu près 2 semaines. Sauf que moi, ma petite prédiction, c'est que ce genre d'affaires-là, c'est le fun quand ça marche bien, mais quand le gars commence à vouloir virer l'avantage, le bien commun à son avantage, là, c'est le bordel
Un
parce qu'il n'y a plus de...
débordement.
Vraiment pas. Voilà.
Oh, et on va pouvoir voir ça où, ces petits reportages-là, Frédéric Bérard?
Bien, on peut les entendre à Boulevard chaque lundi à 10 h.
Oui.
Commencer.
Oui.
Puis ça sera évidemment par vidéo. J'annoncerai une nouvelle plateforme bientôt.
Superbe. Un gros merci d'avoir été avec nous. Frédéric Bérard, avocat, auteur. Ben là, t'es rendu quasiment journaliste, mon cher, là. Mais assurément chroniqueur ici dans l'heure CV. Effectivement, à 10h10 environ les lundis. On se reparle la semaine prochaine.
Salut, à
Salut,
bientôt.
merci beaucoup. Si vous avez des questions pour Frédéric, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'il aborde, c'est intéressant aussi d'aller chercher son expertise dans plusieurs choses comme avocat. Vous le savez, c'est collaboratif ici. Vous m'écrivez 88-971-1021 ou n'importe quel de mes réseaux. I Lost My Baby de Jean Leloup. Moi, quand mes collègues me mettent des chansons comme ça, sachant très bien que je suis fan fini de Jean Leloup, ça me fait plaisir de vous les envoyer dans vos oreilles à Boulevard 102.1. Une de ses meilleures. Probablement trop chantée au karaoké, mais on va laisser Jean Leloup la chanter ce matin.